Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Nicolas Voller et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous recevoir pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio l'un des visages, il faut le dire, les plus regardés de la fiction française. Vous l'avez vu au cinéma, évidemment, au théâtre, mais c'est surtout à la télé où déjà, depuis 9 ans, il se glisse dans la peau d'un flic pas comme les autres. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Chiffres à l'appui, s'il vous plaît. Bonjour, Samuel Le Bihan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Les audiences sont tombées ce matin. Elles sont toutes fraîches. 5,5 millions de téléspectateurs, 25% de part d'audience quasiment. C'est quoi votre réaction quand vous découvrez ce chiffre? Est-ce que vous êtes toujours émerveillé, éberlué? Ou est-ce qu'au contraire, il y a toujours la peur de se dire, est-ce qu'on va faire aussi bien que les derniers inédits?
Ah, bien sûr, il y a toujours la peur.
c'est la trouille. C'est 9h, hein, 9h05 à peu près, vous avez...
on fait ce métier pour être aimé, hein, vous savez. Donc,
et regardez,
donc, on a toujours peur que, voilà, qu'il y ait un effet inverse. Le succès, c'est un cadeau. Hein. On ne sait pas très bien pourquoi ça arrive. C'est une adéquation. Vous êtes à la bonne place, avec les bonnes personnes, dans le bon endroit, au bon moment.
Avec le bon personnage, en plus.
Oui, c'est ça. Donc là, les choses sont en harmonie, et tant mieux. Et maintenant, on est obligé, on est garant d'essayer de ne pas décevoir le spectateur.
Est-ce que vous êtes devenu une espèce d'expert des audiences, comme certains nous le disent? Audrey Fleurot, dans une interview récente, avait dit « Ah, maintenant, je commence à m'intéresser à fond aux audiences, regarder ce qu'il y a, les cibles ». Vous êtes un peu expert ou pas?
Non, pas du tout. C'est le producteur qui m'appelle et qui... Delphine Vautier, productrice, m'appelle, qui me donne les chiffres ou la chaîne, Carole Lebert. Enfin, les personnes qui fabriquent, qui font cette série.
Et est-ce qu'il y a... Alors, peut-être que vous n'allez pas le dire, mais est-ce qu'il y a un seuil d'audience en dessous lequel France 3 ne voudrait pas aller? Est-ce qu'il fixe... Est-ce que vous le savez, s'il y a un seuil qui est fixé d'audience pour que... Dire Alex Hugo perdure dans le temps, reste, fonctionne
ou pas?
Je ne
sais pas, mais ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'il y a en face, quelle est la part de marché, et surtout ça, la proportion aussi, c'est important.
Pas les cibles, parce que les ménagères, vous êtes un peu plus bas, mais il n'y a pas de publicité sur la télé à cette heure-là.
Et la courbe, est-ce que les gens restent? Est-ce qu'ils viennent de plus en plus? Et souvent, sur Alex Hugo, c'est des très bonnes courbes, parce que les gens vont ailleurs, arrivent sur Alex et ils restent.
Et ils restent,
ils
restent.
Ça, c'est très bon signe.
Vous avez une belle courbe, alors.
Ça, je peux dire que j'ai une belle courbe.
Voilà, quand on voit Samuel Le Bihan, on ne zappe pas. C'est évidemment l'un des secrets de cette série, mais il y en a beaucoup d'autres. On va en parler, évidemment, dans quelques instants, mais aussi de cette soirée spéciale, de votre album, de vos projets. On va parler de beaucoup de choses. Ce sera après les news médias de Damien Canivez.
Salut Nicolas, bonjour Samuel.
Bonjour.
On démarre tout de suite avec ces deux journalistes de BFM, malheureusement, qui ont été agressés.
Oui, la chaîne d'information en continu a largement consacré son antenne à la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs équipes de BFM TV étaient sur le terrain, dans le cortège parisien qui s'était lancé à 14h place de la République, direction place de la Nation à Paris. En milieu de parcours, des incidents se sont produits. Des militants radicaux de l'ultra-gauche ont pulvérisé des vitrines, des affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté. Et c'est à ce moment précis que deux reporters de la chaîne Info ainsi que leurs agents de protection ont été pris à partie par une dizaine d'individus. Dans un premier temps, ils ont été bousculés, intimidés, puis quelques instants plus tard, alors qu'ils s'étaient écartés pour des raisons évidentes de sécurité, un groupe composé d'une vingtaine de manifestants a agressé l'un des deux journalistes. Il tombe au sol, perd sa caméra et reçoit plusieurs coups, alors même qu'il est au sol. Finalement, d'autres manifestants leur ont porté secours et ils ont réussi à être exfiltrés de la manifestation.
Samuel, est-ce que ça vous inquiète, cette espèce de climat d'extrême tension qu'on sent en fait en ce moment en France, où est-ce que vous essayez de ne pas trop, être dedans? Vous ne le ressentez pas trop, ou malgré tout
Il y a plein de choses qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, mais ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a une grande précarité qui est en train de se mettre en place, avec l'inflation, avec tout ça. Les Restos du Cœur nous annoncent qu'ils n'ont jamais eu autant de monde rapidement.
C'est vrai, ouais.
Et je crois que les gens se sentent écrasés par la vie. Et au moment où on va dans la rue, c'est le moment où on peut exprimer sa colère aussi. Donc évidemment, il y a ceux qui sont là pour casser et qui s'orientent aujourd'hui sur les journalistes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc la presse était plutôt protégée parce qu'ils relataient l'événement, ils relataient cette colère. Aujourd'hui, maintenant, ils sont pris pour cible.
Oui, autant que les politiques, d'ailleurs, quasiment.
Oui, on constate aussi beaucoup de violence sur les administrés. Ouais. Notre société devient plus violente aussi. On le voit sur les
plus
réseaux
radical,
sociaux.
C'est
un plus radical. C'est-à-dire que là, on constate que on passe très vite en mode agressif. C'est le monde dans lequel on évolue, hein, qui est un peu partout dans le monde d'ailleurs. Il faut faire avec, il faut se débrouiller avec ça, mais surtout, je me dis, c'est aussi le monde qu'on laisse à nos enfants. Alors, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que ce monde leur fait plus peur qu'il ne nous faisait peur à nous? Ce qu'on constate, c'est que les enfants sont moins riches que les parents. Avant, oui. On se disait, tiens, je fais ma vie, je vais devenir plus riche. Non, là, si on n'a pas des parents qui ont accumulé un petit peu dans des biens immobiliers, ben, on a plus de mal à acquérir quelque chose.
Derrière, oui, c'est sûr.
Donc ça, ce sont des chiffres. On voit que le monde est plus difficile, oui.
Mais au-delà de ça, les manifestations, les grèves contre cette réforme des retraites, vous la comprenez ou vous avez
Si on a la qualité de vie qu'on a en France aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui sont allés dans la rue et qui se sont battus pour les congés payés, pour tout un tas de choses. Et aujourd'hui, si on a un cadre qui est envié dans le monde entier, parce qu'on a des avantages sociaux en France qu'on n'a pas nulle part ailleurs
c'est
dans
certain.
Le monde.
Oui.
C'est grâce à ces combats qui ont été menés par nos pères, par nos grands frères. Donc, c'est important, ouais.
C'est important ces combats, que les gens manifestent leur mécontentement.
Il faut savoir les entendre aussi.
Ouais. On poursuit ces infos médias, Damien. On continue ces infos médias. Oui. Ça va vous intéresser, Samuel. Le grand retour d'Al Pacino à Paris, la légende Al Pacino.
Après un passage très remarqué d'ailleurs à Paris en 2018, l'acteur américain, connu entre autres pour sa performance dans Le Parrain, sera de retour. Entre autres,
il fait 40 000 films fantastiques.
Il me faudrait 3 quarts d'heure pour citer toute sa filmographie. Il sera de retour dans la capitale, donc ce sera le 25 avril prochain dans la salle Pleyel, date à laquelle d'ailleurs il fêtera son 83e anniversaire. Alors au cours de cette soirée, Al Pacino partagera avec le public parisien des confidences autour de sa vie, entièrement consacrée au cinéma et au théâtre. Il va illustrer également ses anecdotes avec des archives personnelles inédites, mais aussi des extraits de ses films cultes, de son enfance chaotique dans le Bronx à ses rôles mythiques. Le comédien reviendra sur une carrière incroyable en jouant aussi ses souvenirs. Prix des places, tenez-vous bien, 49 euros pour les moins bien placés. Et pour ceux qui ont la chance d'être en VIP, par exemple, ce sera autour des 500 euros.
Ah ouais, quand même.
Voilà, ouais. Il va falloir casser la tirelire, monsieur.
C'est pas donné. C'est évidemment l'un des plus grands acteurs vivants aujourd'hui, Al Pacino. Vous, Samuel, est-ce que dans le métier, il y a quelqu'un, un mentor, un modèle qui vous a donné envie de faire ce métier ou qui vous a aidé, poussé
Oui, Al Pacino en fait partie, avec De Niro, avec toute cette génération.
Dans ces modèles-là, ouais, ouais.
Oui.
Oui,
bien sûr. Tout cinéma des années 70. Mais j'aime bien picorer à droite à gauche. Maintenant, je vois surtout... des fois, je vois des trucs par mes copains hein, qui jouent dans les films. Je me dis, mais comment il a fait ça, quoi? Il y a, quand je vois Gilles Lelouch dans Bac Nord, où tout d'un coup, il y a une façon d'aborder le rôle, des scènes. Je me dis, mais est-ce que je suis pas sûr d'être vraiment capable d'aller aussi loin dans le jeu.
Oui.
Donc, je suis impressionné. J'essaye de comprendre et de m'inspirer, de voir comment je peux progresser aussi.
Ouais. Et du coup, vous, il y a quelqu'un qui vous a poussé au départ, qui vous a aidé.
Il y avait Patrick Devers, moi, quand j'étais jeune, c'est Patrick Devers, Depardieu, bien sûr. Patrick Devers, il avait quelque chose, je ne sais pas pourquoi on se sentait assez proche de lui, peut-être parce qu'il avait une espèce d'hypersensibilité. On sentait une violence énorme en lui et en même temps beaucoup de fragilité. Je crois qu'on était assez sensibles à cet acteur. Oui. Il nous a beaucoup inspirés.
Un acteur extraordinaire en plus, effectivement. On termine, Damien, avec le chiffre du jour. C'est 6 000.
Alors, c'est 6 000 divisé par 10.
C'est pas votre salaire,
non? Non, malheureusement. J'aimerais bien, ceci dit. Notez-le sur un coin de votre feuille. Non, c'est 600, en fait. C'est vrai que j'ai rajouté un zéro. C'est bien le 1er avril. Moi, j'ai décidé de vous faire des petites blagues, là. Vous voyez, le 1er avril approche. Alors, c'est en mètres carrés, 600, hein, la surface sur laquelle les présentateurs des JT d'M6 se déplaceront à partir du lundi 17 avril prochain. La direction de la chaîne a décidé de moderniser les 12h45 et 19h45. Les tranches d'information, on le rappelle, de la mi-journée et du soir. Alors, au programme de la réalité augmentée, l'intégration en direct d'images en 3 dimensions, un nouveau décor de couleur bleu roi, des nouveaux génériques et surtout un écran géant de 100 mètres carrés.
Ce sera dans 15 jours.
Oui, exactement.
Les nouveaux JT. L'actu, j'imagine que vous la suivez, elle est anxiogène. Hein. On parlait des réformes, la guerre en Ukraine et l'affaire Palmade aussi récemment. Vous la consommez, l'actualité, comme ça, par intérêt, ou est-ce que vous essayez
de vous
éloigner un peu? Vrai qu'elle est difficile hein, de temps en temps.
Il faut se tenir au courant, il faut savoir ce qui se passe, ça c'est important. Ensuite, il faut faire gaffe parce que ça joue aussi énormément sur nos impulsions un peu primaires, c'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de dégagement d'adrénaline sur le fait d'avoir peur, de se dire tiens, c'est dangereux, c'est à côté, donc ce côté un peu anxiogène aussi est un peu excitant. Et j'ai l'impression que les médias jouent avec ça. avec ma curiosité naturelle.
Et vous vous laissez prendre comme ça?
Non, justement. Non, quand même.
C'est vrai, de rester scotché 3 heures devant une chaîne d'info.
Non, je prends une distance. J'aime bien la radio, comme ça,
il n'y a pas les images.
Ouais, ou lire. Mais les images, oui, après, c'est, on est foutu.
C'est addictif, en fait.
C'est pas bien pour moi, je suis désolé.
C'est vrai.
Mais lire l'actu, oui, la lire, l'écouter éventuellement, parce qu'il peut y avoir des débats vraiment intéressants. Et après, j'aime bien que ce soit filtré aussi par, selon les journaux ou les journalistes, il y a une façon de l'aborder, de l'analyser, qui est plus ou moins intéressante. Donc le truc à vif, je m'en méfie toujours un petit peu.
Vous incarnez, Samuel, le rôle du héros, hein, évidemment, éponyme, Alex Hugo, un policier pas comme les autres, qui a dû enquêter sur un braquage. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode et qui veulent le voir en replay, je sais que ça marche bien, on en a parlé juste avant. Comment est-ce que votre personnage va faire pour identifier ces auteurs?
Ces auteurs, c'est-à-dire?
Les auteurs de ce braquage.
Vous voulez que je spoil l'histoire, quoi?
Non, vous allez nous donner envie, juste pour ceux qui n'ont pas revu. Alors, spoiler, c'est déjà passé. Et pour ceux qui n'ont pas revu, comment Alex Hugo va s'attaquer à ce braquage qui est un peu différent des autres,
hein? Ouais, mais moi, ce que j'aime bien, c'est le sujet qu'aborde cet épisode. C'est tellement terriblement dans l'actualité.
La pauvreté,
on parlait de la précarité, de la pauvreté. Il paraît que dans les manifestations...
C'est du vol de nourriture.
Ils volent de la nourriture pour le redistribuer.
Ouais.
Donc il y a un petit côté Robin des Bois, mais une forme de naïveté par rapport au monde qui nous entoure, alors que tout est imbriqué, c'est systémique, et ils pensent qu'en braquant un boucher, ils vont pouvoir rétablir un équilibre. Le pauvre boucher, lui, il est pour rien, il est en train de travailler, il a du mal à finir les fins de mois, il bosse aussi pour quelqu'un, il se fait blesser, mais ça raconte aussi... cette envie d'améliorer notre société, à quel point c'est difficile, on le voit dans l'envie de rendre... on nous parle de la planète et on a envie de lutter pour améliorer l'environnement et à quel point c'est difficile, dès que vous bougez un élément, c'est toute une économie qui se fragilise. Donc ça va être lent, ça va prendre du temps et il va falloir considérer un petit peu tous les éléments en place. Mais donc ça parle aussi donc la façon dont l'agriculture s'industrialise, oui, au détriment des petites fermes, donc ça parle d'un monde qui est en train de basculer.
Est-ce qu'il y a des sujets de société, des thèmes de société brûlants qui vous touchent plus que d'autres? Vous avez parlé de l'écologie, vous avez parlé de la pauvreté. Est-ce qu'il y a vraiment des sujets dans lesquels vous retrouvez à titre personnel?
Et on a beaucoup abordé dans Alex Hugo d'ailleurs.
Oui, il y en a beaucoup.
Beaucoup de thématiques.
Alors moi je suis assez investi dans l'écologie de façon associative, dans le handicap aussi.
Oui.
La pauvreté, l'alimentation, j'étais au conseil d'administration d'Action contre la faim pendant plusieurs années, j'étais assez investi aussi sur le sujet, je me déplaçais aussi sur le terrain. J'avais même fait un documentaire sur la Mongolie, le crash économique en Mongolie et les gens qui vivaient dans la rue pour envoyer spécial.
Oui.
Donc ce sont des sujets qui m'interpellent, c'est-à-dire c'est la façon dont notre monde évolue, mais de quelle façon il évolue, et c'est surtout, on se rend compte à quel point, en tout cas, la France est un pays extrêmement protégé par rapport au reste du monde, qui est, je trouve, beaucoup plus violent. Mais je suis touché par, par la difficulté, par la façon dont... l'injustice de la vie, en fait.
Okay.
Et
qui regroupe une grosse partie des sujets de société, effectivement.
Oui, voilà. Et comment on... pour on se retrouve sur ce monde là et puis on n'est pas né au bon endroit ou alors pas de la bonne façon. Si jamais on est handicapé, c'est beaucoup plus compliqué.
Bien sûr.
Donc je suis assez touché par ça et j'essaye de voir comment moi à mon niveau je peux essayer de rétablir un petit équilibre.
Alors un petit mot sur Alex Hugo, effectivement, et ces nouveaux épisodes, c'est 3-4 épisodes à peu près par an, pas beaucoup plus. Samuel, la raison principale, c'est quoi? C'est du temps, c'est vous voulez des choses de plus grande qualité, parce que j'imagine que vu le succès, on pourrait vous pousser à en faire plus.
On a tenté 4, mais en fait, c'est la qualité de l'écriture le plus difficile à tenir. Donc on est revenu à 3 et là, on va passer à 2.
Vous êtes beaucoup plus exigeant, donc ça prend plus de temps, c'est ça?
Oui, ça demande, si on veut des bonnes histoires, vous savez, c'est un format assez particulier, parce que ce n'était pas fait pour être une série. C'était un téléfilm, un unitaire, un petit film. Qui a beaucoup plu, donc on en a fait un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Et c'est devenu ce qu'ils appellent une collection.
Une collection.
Et aujourd'hui, on l'appelle une série. Mmh. Et aujourd'hui encore, en fait, on doit le faire comme des artisans. Il y a vraiment le temps de l'écriture, avec le temps des repérages pour construire cette histoire. Donc si on veut tenir un niveau de qualité, si on ne veut pas décevoir le public, rentrer dans un système, se répéter, on est obligé de prendre le temps de l'écriture, du développement.
Donc c'est volontaire. Hein.
Oui, tout exprès. À fait. Ouais. Ouais, ouais.
Nicolas l'a dit tout à l'heure en introduction, ça fait près de 10 ans que vous campez ce personnage. Comment vous qualifieriez la relation que vous avez tissée avec lui? J'imagine avec que vous le connaissez mieux qu'avant maintenant, cet Alex Hugo.
Ouais. Est-ce qu'il ressemble de plus qu'au départ en tout cas? Est-ce qu'il y a plus de...
Oui, je l'ai ramené à moi et puis moi je suis aussi allé vers lui. Enfin, il y a une rencontre qui s'est faite comme un copain, un super copain avec qui vous avez envie de partager des choses et qui vous inspire surtout parce qu'il il m'inspire sur... son idée de la justice, sur la liberté, ce qu'il arrive vraiment à créer. Alors, c'est presque trop, c'est-à-dire que lui, il se permet de partir, de ne plus donner de nouvelles, de ne pas parler aux gens. C'est presque un fantasme de liberté que je pourrais avoir, vivre dans la nature, comme ça, j'adorerais.
De tout plaquer pour disparaître, c'est ça?
Pas tout plaquer pour disparaître, mais peut-être pour faire le tour du monde.
Ah oui.
Et je suis respire dans un système peu. Aujourd'hui où je peux pas m'éloigner, je peux pas m'en échapper, c'est pas si simple. Il a réussi à organiser son environnement pour vivre des choses que moi je rêverais aussi de vivre. Donc c'est inspirant de point de vue là parce que en permanence, alors le rapport à la nature, le rapport à la justice, l'équité et
ce rapport. La discrétion aussi quelque part aussi. La discrétion de votre personnage, c'est-à-dire qu'il n'est pas exubérant non plus, Alex Hugo.
Ah oui, non, oui, c'est il a vrai, un côté très naturel, très sain.
Pas non plus replié sur lui-même, mais disons que c'est quelqu'un qui n'est pas expansif.
Oui, bon ben voilà, c'est moi.
C'est vous, c'est à peu près vous. Alex Hugo, c'est un peu ce côté solitaire, d'autant plus cette saison, puisque les deux comédiens, enfin, Marine Canto et Lionel Astier, sont partis. Comment ça s'est passé ce départ? Vous l'avez été, ça a été difficile ou pas?
On était tristes.
Surtout Lionel, vous avez beaucoup de dialogue avec lui. Vous avez beaucoup de dialogue.
On a construit cette série ensemble. Ouais. Les premiers épisodes, c'était ensemble. On a constitué cette équipe, cet équilibre dans nos relations, la façon dont les personnages ont évolué. C'est-à-dire que
entre Alex et Angelo, effectivement.
Bah, Angelo qui est toujours en train de protéger Alex, qui lui n'est jamais là. On ne sait pas s'il enquête ou s'il est parti se promener avec des ours ou des loups. Et donc, il a une façon par rapport... Et puis, Marilyn Canto, qui était ma supérieure, notre supérieure, c'est-à-dire ce petit bout de femme...
La commissaire
qui mettait tous ses hommes aux ordres. Et Alex Hugo, toujours dans les chemins de travers. Alors, elle était... Donc, à me remonter les bretelles, à s'engueuler. J'adorais m'engueuler avec Marilyn Canto. C'était des scènes assez intenses, c'était sympa.
Mais vous avez été déçu ou pas de leur départ?
Non, c'est normal. Ils ont leur carrière de comédien à poursuivre. Ils ont des envies et je le comprends. C'est au contraire, je suis même content qu'ils aillent vers des projets qui soient plus personnels, en fait. C'est vraiment bien.
Il est prévu qu'il soit remplacé dans la série, Samuel, ou pas?
Bah, on n'a pas envie.
Non, mais d'autres personnages qui pourraient prendre plus d'importance ou d'autres qui pourraient arriver.
Pour l'instant, on a envie d'avoir des guests, faire entrer des guests pour avoir des histoires un petit peu ambitieuses, comme ça, avec un personnage.
Des guests un peu plus développés.
On peut leur laisser plus de place.
D'accord.
Et on n'est pas obligé d'en parler. Ce qui est marrant, parce que Lionel, on a mis des photos de lui partout dans le décor, dans le commissariat.
Lionel, comme ce
personnage emblématique qui aurait laissé une trace indélébile. Non, c'est rigolo. Il y a un lien affectif qu'on n'a pas envie de, casser, donc on n'a pas envie de le remplacer pour l'instant.
Alors, au-delà d'Alex Hugo, vous avez tourné en janvier dernier la fiction « Tu ne tueras point ». Oui. Vous allez interpréter le rôle d'un ancien pénaliste prestigieux qui va se pencher sur le cas d'une femme qui a choisi de mettre fin aux souffrances de son enfant atteinte de polyhandicap et de troubles autistiques sévères. Qu'est-ce qui vous a motivé à camper ce rôle?
Je voulais jouer un avocat. Je voulais avoir un regard sur cette cause. Enfin, cette cause
vous l'aviez dit depuis longtemps, ça, hein, avocat, c'est quelque chose qui vous...
Oui, j'avais très envie. Je voulais faire une plaidoirie et convaincre avec les mots, pencher la balance, emmener les gens dans son territoire, dans ses idées, juste avec la rhétorique. Ça, j'en avais très, très envie. Et du coup, il y a une plaidoirie de 14 minutes. Donc, c'était assez conséquent. J'avais très, très peur, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie problématique dans notre société. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Ce cas de figure où une mère, dans le désespoir, met fin au jour de son enfant. Et là, la société se pose des questions, mais c'est complexe, savoir est-ce que c'est la mère dans sa toute-puissance qui décide de la vie, qui donne la vie et qui la reprend, ou alors c'est la société qui, à un moment, abandonne les gens et les laisse dans un isolement, dans un désespoir, où la seule issue devient de mettre fin à ses jours, ou au jour de l'enfant. C'est une vraie question qui mérite d'être posée, d'y réfléchir, d'essayer de comprendre. Et c'est ça la proposition. Ce n'est pas de donner une réponse, c'est de comprendre,
table,
d'essayer de comprendre et d'essayer d'envisager. Quoi. Oui.
Alors évidemment, le scénario vous touche de près. Vous êtes vous-même papa d'une petite fille qui est atteinte d'autisme. Comment vous faites à ce moment-là pour dissocier le côté vie privée de votre vie à vous et le scénario avec le personnage et ce qui s'y passe, évidemment.
Oui, bah alors,
et les questions importantes qu'elle soulève.
Oui, alors disons, évidemment, ce qui m'arrive dans ma vie personnelle m'oblige à avoir un regard particulier sur certaines choses. Et donc, forcément, je suis un peu plus touché. Mais c'est justement aussi pour ça que j'ai été éveillé à cette problématique. En tout cas, ce fait qui arrive rarement. Mais
ça arrive que des parents, vous en avez rencontré plusieurs et eu envie, comme ça, de mettre fin, sans passer à l'acte, forcément.
Mais je vois beaucoup de gens dans le désespoir. Ouais. Beaucoup. C'est très, très dur. C'est très besoin. On ne se rend pas compte de ce que c'est de s'occuper d'un enfant handicapé tous les jours. Ma fille, c'est un soleil. Elle a progressé énormément. Aujourd'hui, elle est même, alors qu'elle ne parlait pas, elle ne mangeait pas, elle s'automutilait. Aujourd'hui, elle est à l'école, elle est en sixième. Elle a des amis, elle rigole, elle communique. Enfin, il y a deux mondes hein, entre son enfance et aujourd'hui sa préadolescence.
Le progrès qu'elle
a. Donc, je ne suis pas, moi... Je suis plutôt assez privilégié, c'est-à-dire que à la fois j'ai un réseau et en même temps ma fille a développé des stratégies, des compétences pour contourner son handicap et progresser. Donc c'est assez, c'est même une leçon de vie pour moi. C'est quand même un sujet que je connais,
bien sûr,
puisqu'avec Florent Chappelle, j'aborde le sujet. Avec Florent Chappelle, on a monté une plateforme qui s'appelle Autisme Info Service. Il y a 4 ans, c'était en 2019, le 2 avril. Donc ce sera
la journée mondiale de l'autisme dimanche.
Et voilà, exactement, le 2 avril, chaque année, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et on a monté ça parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas d'outils. J'aime bien être dans le concret, dans les choses. Mécaniquement, il y avait un besoin et qui permettait aussi de rassembler toutes les associations, rassembler tous ces gens qui, de façon très éparpillée en France, agissent et font avancer la cause. Je veux dire que ça peut être mettre en place de l'équithérapie ou un dentiste qui va se former aux enfants en particulier. Donc, ce n'est pas seulement trouver des éducateurs et des orthophonistes, c'est aussi tout l'environnement de l'autisme. Et donc, l'ambition, c'est de créer un annuaire et d'aider les gens. Et jusqu'en 4 ans, on a aidé 25 000 personnes.
Ouais.
Donc, c'est pas rien. Et la grande victoire, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement reconnaît notre travail. On a été audité, on a été expertisé. Et aujourd'hui, là, maintenant, on va commencer à avoir un soutien financier de l'État. Avant, c'était vraiment des fondations privées qui nous aidaient. Et aujourd'hui, voilà, il y a un relais qui se fait. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment... Alors, on a créé des emplois, il y a des répondants permanents. Mais c'est surtout qu'on a montré l'utilité, le côté indispensable de cette plateforme.
Est-ce que le fait de montrer, parfois aussi, les autistes, ce soit en fiction ou dans la réalité... au meilleur de leur jour. Je pense par exemple à la série Good Doctor avec ce médecin autiste à Périgères qui est ultra doué, ou il s'appelle Paul, hein,
Paul
c'est
El-Karat,
ça Paul El-Karat qui a gagné au jeu de Jean-Luc Reichmann avec une culture, un autiste qui a une culture générale incroyable, qui a été un grand champion. C'est important qu'on les voit aussi dans la vie comme ça, gagner des jeux, faire des fictions, vivre, faire comme ça.
Oui, alors voilà, on a le fantasme de l'autiste super intelligent, super doué, parce qu'il se focalise sur un domaine et il en devient expert. Mais c'est Rainman.
C'est trop cliché pour vous ?
Non, c'est pas cliché, ça existe, mais c'est une très petite partie, c'est une infime partie.
Ça se perd guère.
Et c'est pas la partie la plus complexe vivre avec. En vérité, à 90, plus que 90%, c'est surtout un handicap lourd qui complique la vie des familles et qui demande une attention de tous les instants. Donc, c'est pas comparable. On peut pas. En fait, je pense que dans l'avenir, il y aura plusieurs catégories. On appellera plus ça autisme. Hein, c'est Asperger, c'est vraiment particulier. Et les autistes, tels que ma fille fait partie, c'est encore un autre domaine. Donc, de toute façon, c'est important d'en parler. C'est important pour comprendre, parce qu'on est dans un monde où on cache la vieillesse, on cache les maladies. Avant, on vivait tous ensemble. Il y avait le vieux, le jeune, dans une famille nombreuse, il y avait toujours des gens très différents les uns des autres. Celui qui était un peu voyou, celui qui était plus fragile, et celui qui pouvait être un peu plus handicapé aussi. Et donc, Il faut apprendre à vivre ensemble. C'est essentiel pour...
Évidemment.
C'est aussi, on ne se rend pas compte, c'est aussi une source de bonheur. C'est-à-dire qu'on vit, on a besoin de se rencontrer, d'avoir, de sentir la fragilité de l'existence. Sinon, comment on peut construire... comment on peut goûter le plaisir de notre vie.
Le plaisir et le bonheur. Ouais, c'est une belle leçon. Merci beaucoup, en tout cas, Samuel, d'être venu nous en parler. Je rappelle donc qu'Alex Hugo fait un carton. Vous pouvez aller le revoir encore une fois en replay, attendant les prochains. Et tu ne tueras point. On découvrira quand, à peu près?
À l'automne, je pense.
Automne?
Oui, sur l'automne.
France
Télé.
Sur France 2.
France 2. France 2. Oui, à priorité.
Ce sera à l'automne. Bon, viens, on va nous en parler. Ce sera
avec plaisir.
En tout cas, on compte sur vous, évidemment. Merci de votre fidélité. Et bonne journée.